Bonjour à tous et bienvenue sur Parasquad, le podcast du parachutisme. Je suis Quentin Duhaillon, parachutiste et passionné de parachutisme. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un parachutiste exceptionnel qui va nous partager sa vie à 4000 mètres d'altitude. Sur ce, je vous laisse avec notre invité du jour. Alors, prenez votre altimètre, enfilez votre parachute, on décolle. 3, 2, 1. Bonjour Bruno, bienvenue dans Parasquad.
Eh ben bonjour Quentin.
Comment tu vas ?
Écoute, un petit peu en manque de saut quand même. Hein. On arrive sur une période là, de début de saison compliquée, mais écoute, à part ça, ça va bien.
Je suis un peu dans le même cas et également, ne t'inquiète pas. Est-ce que, pour commencer, tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Alors, bah, je m'appelle donc Bruno Passe, je suis généralement attaché à Paramag, le magazine, hein, dans le parachutisme, c'est plutôt comme ça que je suis connu. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis parachutiste.
Tu me disais justement, ouais, t'es parachutiste, t'as plus de 11 000 sauts aujourd'hui, ce qui représente un peu plus de 190 heures dans le ciel. Si on revient au tout début de tout ça, de ton début dans le parachutisme, est-ce que tu te rappelles de ton premier saut ?
Ah bah je pense que tout le monde s'en rappelle. Hein. Donc même si c'était il y a longtemps, hein, moi j'ai fait mon premier saut en février 1978. J'avais 17 ans, c'était l'âge le plus tôt auquel on pouvait commencer à l'époque. On pouvait pas commencer à sauter avant. Et oui, bah je me rappelle comme si c'était hier. C'était un saut en automatique, pas très haut. Mais on avait attendu longtemps pour pouvoir le faire. Je dis « on » parce qu'à cette époque-là, on commençait en groupe, c'est-à-dire qu'on avait des groupes pour apprendre le parachutisme. C'était évidemment pas comme maintenant. Hein. Et c'était assez long parce que le parachutisme à l'époque n'était pas aussi sophistiqué que maintenant, on va dire. Et donc, ça prenait beaucoup de temps pour apprendre, etc. Donc voilà, je m'en souviens, j'avais attendu, je pense... 2 ou 3 mois, parce qu'il y avait eu l'hiver, etc. Et ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Je vois encore l'avion, la SOA orange qui était tendue, le largueur qui me regardait, qui avait l'air content, et moi aussi.
T'as eu peur ?
Bah, peur, ouais, une appréhension, je pense, comme tout le monde a hein, quand on fait un premier saut. Donc, ouais, mais c'était un mélange d'appréhension et de plaisir en même temps, parce que voilà, j'attendais ça depuis longtemps.
Ok. Tu me disais, tu commences ton aventure dans le parachutisme. Est-ce que tu peux un peu me raconter ses débuts? Comment c'était? Parce que tu commences à 17 ans. Aujourd'hui, tu me dis que tu as 63 ans. Je pense que c'est pas comme aujourd'hui le parachutisme. C'était comment à cette époque?
Alors, bon, heureusement que aujourd'hui, c'est plus comme à cette époque. Mais cette époque, elle était quand même assez géniale, en fait, parce que il y avait tout à découvrir. Et donc, on avait des gros parachutes. Les techniques n'étaient pas les mêmes, les avions n'étaient pas les mêmes. Enfin, c'était la. Je pense que maintenant, on peut dire que c'était la préhistoire. Mais du coup, il y avait plein de choses à découvrir. Et ça, c'était sympa. Quoi. On ne sautait pas très haut. On avait ces parachutes qui n'étaient pas du tout performants. Il n'y avait pas de vidéo. Tout était observé du sol. Et puis surtout, bah, voilà, c'était la technique. Il n'y avait, pas forcément toute la technique, toutes les disciplines qu'on connaît maintenant. Il y avait. La discipline majeure, c'était la précision d'atterrissage et la voltige. Donc, c'était voilà, c'était le but. Les gens voulaient faire ça. Et en même temps, il y avait ça s'appelait pas le vol relatif, c'était le travail relatif qui commençait à arriver. Et c'était un petit peu ce que le free fly de l'époque, on va dire, c'était un petit peu la révolution, la liberté, le fun. C'était ça, en fait. Et nous, on arrive en plein là-dedans. Et c'était super.
Justement, parce que j'ai lu dans une interview à toi que tu disais « J'ai fait beaucoup de sauts tout de suite ». T'as tout de suite accroché au sport, c'est ça hein ?
Alors, ouais, c'est vrai que j'ai tout de suite été passionné par ça. Bon, il faut dire que c'était une époque, il n'y avait pas d'internet, il y avait 4 chaînes à la télé. Voilà, on n'avait pas les mêmes loisirs que maintenant. Et moi, j'avais la chance d'habiter pas très loin de la DZ. J'avais mon frangin, donc Patrick, qui lui sautait déjà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai suivi. J'avais pas de bagnole, j'avais pas de permis. Et donc, on est très lié avec mon frangin, on l'est toujours, hein, on l'a toujours été. Et c'est un peu ça qui m'a amené, enfin, c'est pas ça, c'est lui qui m'a amené au parachutisme. C'est-à-dire que moi, je me faisais chier chez moi parce que lui, il a 3 ans plus que moi. Donc, tu fais le calcul. Et donc, je le suivais et ouais, ça m'a plu. Alors, au début, je pensais pas forcément sauter parce que je pouvais pas, j'étais trop jeune. Et après, à force d'y être, ouais, j'ai eu envie. Et j'ai eu, en fait, cette envie vraiment. Chevillé au corps, et dès que j'ai commencé, ouais, ça m'a plu et j'y suis allé à fond.
Tu t'orientes vers le vol relatif. Tu nous expliquais que c'était un peu le début du vol relatif, comme a pu l'être pour le free fly des années suivantes. Pourquoi cette orientation vers le vol relatif?
Alors, comme je te disais tout à l'heure, parce que c'était la discipline naissante, c'était le fun, un peu la révolution, c'était faut remettre ça un petit peu, tu sais, les années hippies, tu vois, donc ça suivait un peu, c'est un peu peut-être bizarre, hein, les gens vont peut-être pas comprendre aujourd'hui, mais ça suivait un petit peu cette mouvance-là, c'était plus que du parachutisme, ça s'inscrivait ben voilà, dans cette notion de liberté, les cheveux longs. Nous, on allait à Maubeuge, donc tu vois, évidemment, moi, je suis du Nord, hein, je suis basé à Lens, et Maubeuge, c'était, donc Lens, c'était une petite drop zone, on avait un petit avion 3 places, on sautait à 2000-2500 mètres, on n'avait pas beaucoup de parachutes, etc. Et Maubeuge, on prenait la bagnole avec mon frangin, on allait à Maubeuge, c'était la Mecque. On avait l'impression qu'on arrivait aux États-Unis, tu sais. Les Belges, ils avaient cette chance à l'époque d'avoir plus de liberté dans le matériel, dans les disciplines, etc. Et eux, ils avaient les derniers parachutes américains, les combinaisons, ils sautaient sans casque. Nous, on arrivait là-dedans, on avait l'impression d'être aux États-Unis, quoi. Et donc, forcément, on avait envie de faire ça.
Ok. Tu t'orientes, du coup, comme tu disais, vraiment, tu rentres vraiment dans cette discipline du vol relatif. Tu commences un petit peu la compétition par rapport à ça. Tu fais ton entrée en équipe de France Espoir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu plus ce moment qui a marqué un peu ta carrière de parachutiste?
Alors, si tu veux, à l'époque, la compétition, c'était le moyen de faire des bons sauts. C'est-à-dire que si tu te mettais pas en équipe, bon, bah, tu faisais pas des bons sauts. Donc, voilà, le fait de te mettre en équipe, eh ben, c'était un peu la garantie de faire des bons sauts. Puis c'était aussi les copains, tu vois, faire une équipe, tu sautes avec tes potes. Je reviens un petit peu en arrière par rapport au vol relatif. Ce qui m'a vraiment donné envie de faire ça, c'était donc ce que j'ai expliqué. Mais c'est surtout d'avoir vu la tête de mon frangin. À l'époque, le VR, enfin, le TR, hein, ça s'appelait le travail relatif. Donc, tu vois, on est passé du travail relatif au vol relatif. Les mots sont importants parce que ça explique tout, en fait, hein. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas tous les brevets qu'on a maintenant, mais c'était quand même assez structuré. La chance qu'on avait dans le Nord, c'est que, bon, déjà, partout en France, enfin, partout dans le monde, il n'y avait pas de vidéo. Et nous, dans le Nord, on sautait au-dessus des nuages. Et on disait tout le temps, ce qui se passe au-dessus des nuages reste au-dessus des nuages. Dès qu'il y avait un para qui chutait stable, ceux qui étaient un petit peu partis dans le vol relatif, ils allaient faire on appelait ça du touche-touche à l'époque, avec eux. Évidemment, c'était interdit, mais comme c'était interdit, c'était rigolo. Et donc, bah moi, dès que je chutais à peu près stable, bah Patrick, hein, donc mon frangin, il est venu faire ce qu'on appelait un touche-touche, un VR. Et quand j'ai vu sa tête hilar devant moi, mais on était des gamins, tu vois. Moi, j'avais 17 ans et demi. Lui, il en avait 22. Bon, on avait l'habitude, évidemment, de jouer ensemble. Il y avait, voilà. Et bon, j'ai dit, bon, bah, ok, on va partir là-dedans. Donc, si tu veux, c'est pour ça que le vol relatif, ça s'est ancré en moi tout de suite et l'envie de sauter. Et après, bah voilà, tu te fais un copain, bah, au lieu de sauter à 2, tu vas sauter à 3, à 4. Tu t'aperçois que si tu prends, Pierre, Paul, Jacques, ça marche pas. Et donc, tu dis, bah, on va faire une équipe. En plus, c'était un peu la taille des avions. Et ça part comme ça, l'équipe. Et après, tu dis, bah, on va aller se mesurer avec les gens de la Ferté-Gaucher ou de Nancy. Tu dis, ah, bah, comme on était jeunes, bah, viens, bah, va faire une compète. Ah bah putain, c'est sympa la compète, tu vois d'autres trucs. Ah putain, puis eux, ils ont des combats comme ça. Ils font comme si, et alors l'étoile, il attend comme ça. Et puis après, bah, t'es pris dans cette énergie de la compétition et c'est parti. Donc on a fait un championnat de France qu'on a perdu. Donc c'était pas National 1, National 2. Il y avait Excellence et je sais plus comment ça s'appelait. Donc nous, on a fait la première, on va dire la première catégorie. On a fini deuxième à un chouille. Donc, eh ben, l'année suivante, on a dit on recommence. On a fait donc la catégorie nationale 1 qui s'appelait Excellence. Et puis voilà, t'es parti dans la compète.
Comme tu disais, je pense que du coup, t'étais assez bon. Tu fais t'entrer en équipe de France Espoir. comment ça se passe pour toi à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, je vais me lancer 100% dans la compétition? Explique-moi un peu ce moment charnière.
Alors, c'est un peu compliqué, à cause de l'argent, hein, parce que bah, le parachutisme déjà coûtait cher à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'aide pour les compétiteurs. Donc moi j'avais un métier, on travaillait chez mes parents avec mon frangin. Ben voilà, il y a un moment où ton métier te permet de gagner ton argent, de payer tes sous, mais il faut toujours sauter plus pour faire la compétition. Nous on travaillait le week-end, en plus on travaillait samedi, donc on arrivait toujours à se débrouiller. Et il y a un moment quand tu arrives vraiment à vouloir faire la compétition, ben ça te prend énormément de temps. Ben on a dû faire un choix entre la compétition et notre boulot. C'était une entreprise familiale, donc on a dû arrêter, hein, et pour se lancer là-dedans. En fait, il y a un moment, tu as un choix à faire. Si tu veux faire la compétition de haut niveau, enfin, en tout cas à cette époque, c'était comme ça, il fallait choisir. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, bah, on se lance à fond là-dedans.
Ok. Justement, pour parler de se lancer à fond là-dedans, en 1985, tu pars en Yougoslavie faire les championnats du monde. Vous êtes vice-champion du monde à 8, derrière les Américains. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce moment? Parce que je pense que c'était une certaine fierté. Les Américains étaient très très forts à cette époque-là. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se sont déroulés ces championnats du monde? Comment sont passés tes entraînements aussi? Voilà. Un peu m'expliquer le déroulement des choses.
Alors, bah, on va d'abord parler des entraînements. Donc, on sautait pratiquement la moitié du temps. Et c'était le début de la vidéo, hein. Donc, c'était la vidéo chute qui commençait. Mais ce n'était pas encore au point, les caméras, c'était encore du VHS, etc. Donc, on était encore jugé vidéo sol. C'est-à-dire qu'il y avait des caméras vidéo avec des longs téléobjectifs qui nous filmaient du sol. Donc autant dire que c'était compliqué parce que des fois il y avait des nuages, etc. Et en fait, la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'on ne savait pas, on avait très peu d'informations sur les équipes concurrentes. Donc en fait, tu t'entraînais un petit peu tout seul. Tu donnais le meilleur de ce que tu pouvais donner, l'équipe faisait au mieux, mais en fait, tu savais pas trop ce qui t'attendait parce qu'il n'y avait pas Internet, voilà, etc. Donc nous, quand on était arrivé au top de notre entraînement, pour te donner une idée, on était à 11,5 de moyenne à 8. Bon. Mais voilà, à l'époque, c'était le top. Enfin, en tout cas, pour la France, c'était top. On ne savait pas ce que les concurrents en direct, donc c'était essentiellement les Américains. On savait que les Russes, tournaient pas forcément aussi bien que nous. On n'avait évidemment aucune information sur eux, mais on savait que ça allait être les Américains, nos adversaires. 11,5, alors c'est vrai que ça peut faire sourire. Il faut savoir que on ne pouvait pas aller trop vite, parce que si tu faisais les points trop vite, les juges ne les voyaient pas bien, donc on était obligé un petit peu de marquer. Tu vois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais c'était un petit peu ça. On était jugé par en dessous, c'est-à-dire on était filmé par en dessous. Donc enfin, ça n'avait rien à voir par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, l'année s'est super bien passée, c'était vraiment une bonne équipe. J'étais en équipe avec mon frangin, donc ça aussi c'était super. Tu vois, en fait, Patrick, on a toujours été proches pratiquement tout le temps. On l'est encore aujourd'hui, on saute encore ensemble. Donc, de faire ça avec mon frangin, puis il y avait des gens comme Patrick de Gaillardon, DJ Boignon, enfin, je ne vais pas les citer tous, mais ouais, c'était une belle équipe. Quand on est arrivé, on a regardé les sauts des Américains, on pouvait voir, même en n'ayant pas les images vidéo, on arrivait à voir, on a compris que ça allait être compliqué. En fait, eux, ils tournaient à 13 points de moyenne. Et bon voilà, on avait compris qu'on ne serait pas champion du monde, mais on a savouré notre deuxième place parce que bon voilà, c'était tout à fait une place honorable. Donc l'endroit où ça se passait, c'était en Yougoslavie, à Mali Lozinj, c'est en mer Adriatique, c'est un coin de paradis. Après, bah, on sait ce qui s'est passé là-bas, donc bon voilà, maintenant c'est redevenu sympa, mais voilà, ça aussi c'est le côté un petit peu côté cœur. Après, quand on a vu ce qui s'est passé, bon, voilà, c'était un petit peu triste, mais voilà, ça s'est passé là-bas.
Tu en garderas, on va dire, je pense, des super souvenirs. Après tout ça, tu arrêtes la compétition. Pourquoi tu arrêtes la compétition? Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer? Tu as fait aujourd'hui un championnat du monde, c'est ça?
J'ai fait un championnat du monde, ouais, donc en 1985, et bah, comme je t'ai dit, hein, on en revient un petit peu à l'argent. Moi, j'étais jeune père de famille à l'époque. Donc quand je suis revenu des championnats du monde, bah, il y avait mon banquier qui m'attendait avec une mauvaise nouvelle. Donc bah, il a fallu que je me remette un petit peu à travailler. Et j'ai eu une super proposition avec Parachute de France, qui était à l'époque le leader de la fabrication de parachutes en France. Et donc, voilà, ils m'ont fait une proposition super intéressante qui était de devenir commercial, vendeur de parachutes, en fait, pour parler communément. Commercial avec des moyens, une voiture de société, des parachutes de démo. Enfin, eux aussi, tu vois, ils étaient dans leur... voilà, ils démarraient sur quelque chose de nouveau. Hein. À l'époque, c'était pas très développé, la vente de parachutes. Et voilà, c'est une aventure sympa. Monter un réseau de commercial, un truc vraiment quelque chose de professionnel. Encore une fois, aujourd'hui, maintenant, ben voilà, une voiture de fonction, un réseau commercial, tout le monde connaît ça. Mais à l'époque, le faire dans le parachutisme, c'était assez gonflé. Et ouais, c'était un challenge. Donc, en dehors du côté, évidemment, on va dire matériel, argent, il y avait aussi ce côté challenge de monter un réseau commercial. Et puis voilà, c'est une bonne équipe aussi, Parachute de France. Ils nous avaient sponsorisé à l'époque à 8. On avait eu les parachutes sponsorisés, etc. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans pour ces deux raisons.
On reviendra sur un peu le côté professionnel de ta carrière dans le parachutisme. Il y a beaucoup à dire, avec Paramag, avec beaucoup de choses. Tu me disais, tu as fait de la compétition, tu n'as pas fait que ça, on va dire, un peu en exploit. Tu as participé au record du monde à 400. Du coup, début février 2006, tu pars toi à Bangkok pour battre le record du monde de grande formation à 400. En même temps, du coup, dans le ciel. 5 Hercules C-130 sont prévus pour ce record. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe les premiers jours sur place avant les premières tentatives? Plutôt la préparation pour préparer ce record.
Alors, la préparation pour les records, c'est un petit peu toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que ça démarre forcément avec des petites formations. Il faut s'habituer, c'est en Thaïlande, donc il faut un petit peu s'accommoder, le décalage horaire, les conditions, etc. Il faut savoir que ce record à 400, en fait, il y en avait déjà eu avant. Hein, c'était ce qu'on appelait c'était la World Team. Hein, c'était quelque chose qui avait été mis en place par l'Américain B.G. Wirtz. Et c'est une longue histoire qui est quand même difficile à résumer comme ça, mais le 400, c'est un aboutissement. Il y avait eu d'autres records avant. C'était une organisation qu'on connaissait déjà. C'était, on va dire, la troisième manip, le troisième record. Donc, on était déjà un petit peu habitués. Sauf que là, c'était vraiment une taille vraiment encore au-dessus de tout ce qui avait été fait avant. Et donc, c'était ça assez surprenant. Donc voilà, ce qui était surtout surprenant, c'était les avions. Les Hercules, toute cette machinerie qu'on connaissait, on avait déjà sauté des Hercules, les tranches arrière, l'oxygène, etc. Mais là, quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on était encore monté d'un cran, une taille au-dessus. Et du coup, bah, c'est toujours la pression que tu as dans ce genre de manip. Hein. C'est-à-dire qu'il bah, faut tenir sa place. Et il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible. C'est-à-dire que, bah, voilà, comme on le sait, hein, s'il y a une grippe qui n'est pas faite, ou quelqu'un qui est passé en dessous, ou qui n'est pas là, il n'y a pas le record. Donc, bah, à chaque fois que tu rajoutes du monde, et bah, potentiellement, tu rajoutes un risque.
Arrivent les premières tentatives. Comment ça se déroule pour vous, ces premières tentatives? Est-ce que tu as des souvenirs précis par rapport à ça? Est-ce que tu peux... Voilà, les premières tentatives, comment ça se passe pour vous?
Alors, ça se passe assez bien, hein, parce que, encore une fois, comme je te dis, c'était, voilà, il y avait toute une logistique, c'était déjà une machinerie qui était bien rodée. En fait, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que on fait d'abord des sauts avec un avion, deux avions, on fait des formations de plus en plus grosses. Donc, c'est un rythme qui est assez lent. Alors, ce n'est pas forcément désagréable parce que, bah, voilà, on est dans un endroit qui est assez agréable, hein, c'est assez sympa. Et puis après, il y a la pression qui monte parce que tu sais qu'il y a le temps qui va diminuer. Il y a la fatigue qui commence à s'installer, on saute sous oxygène, il fait chaud. Donc, il y a une sorte de bascule, c'est-à-dire en fait... Quand tu arrives, bah, c'est un petit peu les vacances, il faut te détendre, il faut être bien, hein, voilà, etc. Généralement, ça durait 10 jours. Et puis après, tu sens qu'il y a la pression qui monte. Tu sens qu'il y a les maillons faibles qui arrivent, voilà, qui apparaissent, hein, les gens qui n'ont pas le niveau ou qui vont craquer psychologiquement, ou etc. Et c'est là où ça devient dur. Parce que voilà, tu pars dans cette espèce d'équilibre qui finalement, à un moment, devient instable. Et toi, dans ce record-là, il faut que tu sois capable de tenir ta place jusqu'au bout, jusqu'au moment où il y aura le record.
Arrive le dernier jour, dernière tentative, si mes informations sont correctes. Vous montez dans l'avion, il arrive sur Axe à 7400 mètres, Greg Girard donne le go, et qu'est-ce qui se déroule pendant le saut? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce moment?
Alors, malheureusement, Ça n'a pas été aussi simple que ça. C'est-à-dire que le dernier jour, alors il restait, je pense, allez, on va dire 400. Hein, c'est-à-dire, on sait, hein, il y a un programme, voilà, c'est, tout est organisé, etc. Donc le dernier jour, il reste 400. On n'avait évidemment pas fait le record, sinon on ne serait même plus en train de sauter, on serait en train de faire la fête. Et donc, en fait, ce qui aurait pu être le dernier saut, qui est le troisième, démarre super bien, sauf que nous, dans notre secteur français, il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un maillon faible. Et donc, notre secteur, ça s'appelait en fait des weed wakers. Donc, la formation, c'est une espèce d'araignée géante avec des bras comme ça, ce qui s'appelait les weed wakers. Et donc, voilà, on le voit sur les photos. On construit ses branches. Et si tu as un maillon faible, si tu as un mec qui n'est pas à sa place, ou une personne hein, qui n'est pas à sa place, bah évidemment, tu ne peux pas construire la branche. Et nous, dans notre secteur français, généralement, sur toutes les manips, bon, même en étant chauvin, on peut dire que les Français, on se débrouillait bien. Voilà, on avait un beau secteur, ça marchait bien. Et là, nous, on avait ça ne marchait pas bien à cause d'une personne. Et ce qui aurait dû être le saut du record, c'est-à-dire l'avant-dernier saut, cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Il y a des vagues, ça ne marche pas, on ne fait pas le record. Et quand on se pose, on entend ouais, « the French ouais. ». Et nous, c'est un peu difficile à vivre. Il faut savoir qu'un saut comme ça, ça prend une heure et demie. Tu vois, il faut monter en altitude, tu es sous oxygène. Les avions doivent se mettre en patrouille. Enfin, c'est pas un saut qui prend un quart d'heure. C'est une grosse machine qu'il faut remettre en route. Et là, on ne sait même pas si on va avoir le temps de faire le dernier saut. Et surtout, lui, Patrick, donc, qui était le capitaine du secteur, il dit, non, on ne va pas reprendre cette personne. Hein. Il va y avoir BG Works, le chef, et il lui dit, enfin, le directeur du War Team. Et là, le BG Works lui dit, non, moi, je veux un 400. Je ne veux pas un 399. Je veux un 400. Donc, on va tous remonter, et puis on va le refaire. Et là, vraiment, tu vois, j'ai encore le frisson là dans la gorge parce que là, tu dis, en fait, c'est qui tout double, quoi. Le mec, il remet tout, quoi. C'est comme dans les jeux, c'est, voilà, je remets tout sur le 8 et on y va. Et ça a vraiment été le dernier saut. Et là, effectivement, on l'a réussi. Alors, c'est pareil, ça marche mieux, notre secteur, il n'est pas super propre, mais on sait quand même que c'est fait. Et donc là, t'es soulagé quand même. C'est-à-dire qu'une fois que tu sens que la figure est construite, tu vois qu'il n'y a personne en dessous, les gens qui sont autour, c'est que les photographes, les vidéomans, tu sais que c'est construit autour de toi. Bon voilà, il y a un petit peu cette légende, des fois les gens nous demandaient est-ce qu'on sent cette énergie dans la figure ? Bon bah. On la sent plus sur nous parce que on a cette émotion où on sent que c'est construit. Tu peux jamais savoir en fait parce qu'il peut y avoir la figure, elle est grande. Hein, t'imagines un 400, c'est très très grand. Donc il y a un truc que tu peux forcément ne pas voir au bout. Mais ouais, t'as quand même ce feeling comme quoi c'est fait. Et puis voilà. Et puis après, quand il y a la séparation, donc tu vois les parachutes qui commencent à ouvrir. Donc là, c'est une espèce de soulagement parce que tu dis bon bah ok, moi j'ai tenu ma place a priori. Nous, notre secteur, il a fait la place. Enfin, il a fait le job. Voilà. Après, le truc qui est sympa, c'est que tu pars pour une putain de dérive, hein, parce que bon, c'est aussi la partie sympa du saut. Déjà, t'es un peu soulagé parce que, bah, voilà, le job est terminé. Il faut quand même, après, assurer la sécurité. On est quand même 400, hein. C'est la méga constellation, là, qui explose. Ça, c'est une partie sympa aussi du saut, toute cette partie dérive où on dérive pendant 1000 mètres. Et bon, voilà, après, l'ouverture, etc.
Justement, aujourd'hui, on a la chance de tourner dans les bureaux de Paramag. On reviendra sur Paramag par rapport à ça. Je vois qu'il y a une superbe photo juste derrière nous avec le record de 400. On voit du ciel quand même, c'est très très joli. Quand tu arrives au sol et qu'on t'annonce que vous avez réussi le record, qu'est-ce que tu ressens en ce moment précis ?
En fait, c'est venu progressivement parce qu'il a fallu du temps pour les juges. On était 400, il fallait compter toutes les prises. Donc, ça a pris quand même pas mal de temps, mais il y avait au sol, nous, les informations ont commencé un petit peu à transpirer, à passer. Il y avait aussi des images hein, qui circulaient un petit peu. Et puis, dans certains secteurs, alors, il y a eu des secteurs où c'était un peu compliqué. Il y a un rouge qui est descendu, qui a réussi à remonter. Dans un secteur, il y avait du trafic. Et puis, il y avait surtout dans le secteur des Anglais, il y avait Sandy McRobbie, qui, lui, son secteur, ça volait bien. Et lui, il était certain qu'il avait apporté 400e. Il en était convaincu, il l'avait vu la formation, ça volait bien et tout. Et au centre, dans la base,
Il y avait Craig Girard qui lui avait la radio en direct et on l'entendait gueuler dans la radio. Ah, c'est incroyable, amazing, amazing. Il a répété ça, mais plusieurs fois. Et donc, on avait vraiment de plus en plus la conviction que c'était fait. Quand les avions se sont posés, les avions se posaient quand même longtemps après nous, tu vois, la formation avec les Hercules, on est allé faire une ovation de folie aux pilotes, tu vois, c'était déjà la folie, elle commençait à monter, quoi. Et puis voilà, dans la salle des juges, eh bien, ils étaient nombreux. Et donc, il y avait tous les capitaines, les vidéomans, etc., qui étaient là. Et quand les juges ont validé la performance, ils ont validé le record. Donc là, ben, BG Works a expliqué que c'était la première fois que le War Team réalisait la formation fixée au départ de l'aventure, un 400 pour un 400. C'est la première fois que les équipes terminaient au complet et que donc le but était atteint. Et en plus, c'était pas le dernier jour. Pour cette fois-là, c'était pas le dernier jour. Il restait encore un jour de saut. Ça veut dire qu'on allait pouvoir se détendre et vraiment en profiter, contrairement aux années précédentes, enfin au record précédent. C'était un succès total. La formation à 400, elle a été tenue pendant 4 secondes 25. C'est une éternité, quoi. 400 personnes comme ça, enfin, faut imaginer le truc. Et voilà, et derrière, ça a été la folie quand ils l'ont annoncé, évidemment, aux 400 personnes. Ça a été un délire général. Enfin bon, voilà, c'est parti dans tous les sens. Il y a eu un truc, il y avait une juge. Alors ça, c'était quand même très sympa, mais un peu bizarre. Il y a une juge qui avait fait le pari que si on faisait le record, elle se rasait la tête. Et BG Wurst lui a rasé la tête en direct, quoi. Voilà, c'est le genre de scène qu'on a vécu avec ce 400. Et tu vois, c'était il y a des années et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était vraiment fantastique.
Ça a dû être un moment assez, je veux dire, exceptionnel à vivre pour toi. J'aimerais maintenant partir sur une autre facette de toi, en restant dans cette facette du parachutisme, concernant Paramag. Donc aujourd'hui, tu es le directeur, rédacteur en chef de Paramag. Est-ce que tu peux nous raconter ta première rencontre avec ce journal, avec Paramag ?
Alors, ma première rencontre, c'était dans ma boîte aux lettres, hein, en 1987, puisque avant de m'investir dans Paramag, bah, j'étais simple abonné. Donc, voilà, Paramag, ça démarre en 1987. Donc, à cette époque, pareil, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était l'unique média, on va dire, sur le parachutisme. Donc, c'était quelque chose qui était très attendu. Donc, moi, j'ai connu ça. Il n'y avait pas que Paramag, d'ailleurs, il y a eu d'autres magazines qui ont été créés. Il y a eu Parachute Mag, à un moment, il y a eu aussi Drop Zone. Bon, il se trouve que Paramag a duré le plus longtemps. Mais donc voilà, c'était ça ma première rencontre. En fait, moi, j'étais abonné et je dévorais ça pratiquement comme tout le monde à l'époque parce que c'était le seul moyen de voir des photos, d'avoir des infos, de savoir un petit peu ce qui se passait. C'était ça ma première rencontre.
Alors, je tiens à le dire aussi pour ceux qui nous écoutent. Encore aujourd'hui, je dévore de mon côté, les magazines pour déjà vraiment faire toutes les recherches, sur toutes les interviews que je vous propose sur tous les gens. C'est un puits de connaissances incroyables sur le parachutisme.
Eh ben, merci.
Je vous conseille à tous d'aller sur le site internet pour aller un peu fouiller dans les archives. C'est hyper passionnant. Aujourd'hui, pourquoi tu décides avec ton frère Patrick de racheter Paramag ?
Alors, donc ça s'est passé en 1992 et Paramag existait donc depuis 5 ans. On avait observé qu'il y avait une baisse dans la qualité du magazine et on a eu l'idée d'en créer un autre. Ça, c'est assez marrant, on peut le dire maintenant, hein, il n'y a pas de secret là-dessus, et on s'est dit, tiens, on va en créer un autre. Bon, moi, j'avais un autre boulot à l'époque, je ne travaillais pas dans le para, c'était une année de ma vie où j'avais arrêté Parachute de France et je faisais autre chose, et j'avais envie de retourner dans le para, en fait, parce que c'est quand même assez sympa de travailler dans sa passion, et on était parti là-dessus. Et Patrick, lui, déjà, écrivait dans Paramag depuis le début, hein. Il a écrit dans Paramag dès les premiers numéros. D'ailleurs, je tiens à faire un petit salut à trois personnes, en fait, donc qui ont suivi Paramag du début, alors jusqu'à la fin. Paramag n'est pas terminé, mais en tout cas jusqu'à la fin du magazine, donc c'est Patrick Passe, Yves-Marie Guillot, hein, que tout le monde connaît maintenant parce qu'il est président de la fédération, mais qui a été un long contributeur de Paramag, enfin pendant tout le temps où on a fait ces magazines, et Guy Sauvage, qui malheureusement nous a quittés depuis, mais qui a aussi tout au long de sa vie été investi là-dedans. Et Guy Sauvage, c'est pratiquement lui qui a inventé le concept du magazine parachutiste. C'est-à-dire qu'il avait créé dans les années, même avant les années 80, je pense que ce sont les années 60, 79, il avait créé un magazine en noir et blanc qui s'appelait Chute Mag. Et c'était vraiment l'ancêtre. Les lecteurs peuvent le retrouver sur Internet, on a fait des articles là-dessus. Donc voilà, Patrick Pass, Yves-Marie Guillot, Guy Sauvage qui ont été des contributeurs, évidemment DJ Klein qui a créé le magazine. On en a aussi parlé dans les articles. Donc ces trois personnes-là, moi je voulais leur rendre un coup de chapeau parce que aujourd'hui, voilà, Bruno Pass, Paramag, je suis associé, Patrick aussi parce que voilà, il a été actif, mais il faut rendre hommage à ceux qui l'ont créé. Donc ça, c'était un petit peu la petite parenthèse. Mais bon, bah DJ Klein avait une petite baisse de motivation au bout de 5 ans. Voilà, c'était compliqué à l'époque, hein, de fabriquer un magazine tous les mois. On n'avait pas les moyens de maintenant. C'était, voilà, on découpait des films. Enfin, je ne vais pas entrer dans la façon dont on fabriquait un magazine à l'époque, mais c'était quand même assez compliqué. Enfin bon, bref, donc il a eu une baisse. Et en fait, comme Patrick écrivait pour lui, il lui a annoncé, il lui a dit, bah écoute, Didier, je suis désolé, mais on va créer un magazine avec mon frangin, donc je ne vais plus écrire pour toi, enfin pour Paramag. Et là, il lui a dit, non, mais en fait, moi, les gars, moi, je vais arrêter, ça fait 5 ans, je suis fatigué, et moi, j'arrête Paramag, en fait. Donc, enfin voilà, on s'est mis autour du table, on a discuté, et puis, c'est comme ça que ça s'est fait, le rachat de Paramag par les frères Pass.
Ok, super, super, super histoire. Merci de nous partager tout ça. J'aimerais aussi un peu avoir ce côté un peu anecdote, rentrer dans Paramag, on va dire beaucoup plus précisément. Au niveau des coulisses de Paramag, est-ce que toi, tu aurais une anecdote amusante un peu ou surprenante sur les coulisses de la rédaction de Paramag que tu pourrais nous partager?
Alors, bon, une anecdote surprenante, oui, il y en a une. C'est-à-dire que dans les années, donc 92, on a racheté le magazine, ça doit être en 93, 94, on était encore à l'époque du Minitel. Alors bon, j'espère que les auditeurs savent ce que c'est encore qu'un Minitel. Et il y avait ce qui s'appelait à l'époque le Minitel Rose. Bon, voilà, ceux qui connaissent pas iront voir un peu ce que c'était que le Minitel Rose, je vais pas l'expliquer, mais bon, c'est assez facile à comprendre. Et un jour, j'étais approché par un parachutiste de la Ferté-Gaucher, qui était le centre parisien, il vient me voir, il me dit « Ouais, j'ai un truc, machin. » Et en fait, pour pouvoir éditer un magazine, on a ce qui s'appelle un numéro de commission paritaire. Bon, c'est un truc un peu sur le côté légal. Et pour pouvoir éditer en fait sur un Minitel, il fallait ça. Enfin bon, bref, il voulait utiliser mon numéro de commission paritaire pour faire ça. Bon, moi, j'avais besoin d'argent à l'époque, hein, parce que quand j'ai démarré Paramag, j'avais pas d'argent, j'avais fait un crédit, je me suis endetté pour démarrer ça. C'était pas forcément très simple, et je suis parti là-dedans. Alors, il y avait rien de... Le Mitterrand, c'était quand même assez léger, hein, il y avait rien de... Comment dire, de scandaleux là-dessus. Mais j'étais assez surpris, moi, je m'attendais pas à sa demande. Bon, voilà, j'ai fait ça une année ou deux, ça m'a permis de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, puis après, je lui ai dit, écoute, on va arrêter les conneries, parce que bon... J'avais pas trop envie d'être embêté, même si encore une fois il y avait rien d'illégal là-dedans. Donc voilà, la petite anecdote, c'est qu'on est, voilà, on n'a pas participé au contenu, hein, c'était juste.
C'est vrai que c'est quand même assez cocasse.
Ouais, je dirais.
Pour revenir un peu sur cette anecdote, toi, tu as eu la chance d'interviewer plein de parachutistes, dans, j'imagine français, peut-être mondiaux. Est-ce que aujourd'hui, parmi toutes les personnes que tu as pu interviewer, ou dont tu as écrit le portrait, par exemple, pour Paramag, est-ce qu'il y a quelqu'un, une rencontre, une personne qui t'a particulièrement marqué?
Alors, ça, c'est un peu des tortures, hein, tes questions, parce que t'imagines bien que sur, voilà, sur 30 ans comme ça, il y a beaucoup, et donc il faut faire un choix, c'est pas facile. Donc, oui, il y a une personne, forcément, enfin, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui m'a beaucoup ému, c'est Vince Roffey, parce que bon, je l'ai vu sur les terrains, il était gamin, tu vois, je l'ai connu quand il était gamin avec son frangin, voilà, il accompagnait donc son père, Philippe, hein, qui était directeur technique, moniteur, etc. Et il y avait les deux frangins, Vince et Benji, qui étaient là, enfin voilà, moi je l'ai connu comme ça. Et puis après, bon, je vais pas raconter, mais évidemment, je l'ai suivi dans toutes les étapes de sa progression, puisqu'après... J'ai vu faire sa PAC, j'ai sauté avec lui pour faire du B2. Enfin voilà, sa famille, c'est des amis, etc., etc. Donc ouais, c'était forcément quand il est arrivé déjà tout passage Babylone. Je les ai beaucoup interviewés en fait, et donc Vince refait et Fred. Enfin, ils sont toujours associés, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à faire des interviews, donc c'est à l'époque de Babylone, ils étaient tout le temps ensemble. Enfin, c'était les inséparables, quoi. Et donc forcément, ça marque parce que au début, c'était sur des championnats du monde quand ils étaient encore dans la compétition. Puis après, ils ont commencé à faire un petit peu les exploits, les cascades, Soulfire, etc. Enfin, voilà, c'est tellement et ouais, ça m'a énormément marqué sur le côté forcément affectif. Ça, c'est sûr. Surtout que maintenant, il nous a quittés, donc c'est forcément sur le côté affectif, ça joue. Mais sur le côté technique, quoi, c'est incroyable, quoi. Il est allé au-delà des limites et de ce qu'on pouvait imaginer quand on revient un petit peu dans le passé. Tu vois, quand je repense à lui à n'importe quelle étape de sa carrière et de sa vie, et qu'après tu le vois voler avec ses ailes, voler avec les avions de ligne, enfin voler, c'est... Ouais, ça m'a profondément marqué. Il y en a beaucoup d'autres qui m'ont marqué. Mais bon, voilà, il faut faire un choix, donc forcément.
Je comprends ce choix. Je viens de finir, moi, également le livre que Fred a sorti. Voilà, c'est quelque chose qui, je vais dire, est hors du commun. Les exploits qu'ils ont réalisés, je trouve ça incroyable. Et je comprends aujourd'hui pourquoi tu choisis Vince. Comme je te le disais, tu as eu la chance du coup d'interviewer plein de personnes. Tu as aussi eu la chance de couvrir plein d'événements, dont plein de championnats du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais... quelle histoire ou quel moment t'as le plus marqué lors d'un de ces événements, un championnat du monde, un record du monde? Voilà. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a plus marqué que les autres?
Alors, pareil, hein... Slash torture, hein. mais en fait, pas tant que ça, parce que j'ai couvert beaucoup de championnats du monde, mais il y en a beaucoup que j'ai couvert à distance. C'est-à-dire que en faisant un mensuel, ça revient très vite, hein, forcément, et c'est compliqué de se déplacer. Je pouvais pas tout le temps être sur les championnats du monde, hein, parce qu'il y avait les périodes de bouclage, le magazine à fabriquer, à imprimer, etc. Et donc, ceux qui m'ont marqué le plus, alors... Hashtag Chauvin aussi, hein, j'assume complètement. C'est ceux qui sont passés en France, parce que pour moi, c'était déjà beaucoup plus facile à couvrir. Et puis, voilà, moi, je suis un petit peu bleu-blanc-rouge quand même, je suis comme ça, et voilà, j'assume. Donc, il y a eu le Mondial en 2003 à Tallard. Ça m'a beaucoup marqué, parce que, Tallard, bon, c'est un gap, c'est une super région, un petit peu un paradis du parachutisme chez nous. Et puis il y avait tout le parachutisme international qui était là, toutes les grandes nations, les Russes, les Américains, enfin toutes les nations. Il y avait les équipes de France qui étaient là. C'était à la maison, c'était évidemment super bien organisé puisque c'était chez nous. Et ouais, il faisait beau, enfin tu vois, ça m'a bien marqué. Et puis la France pratiquement sur tous les podiums. Et il y a le petit côté aussi Paramax, c'est qu'à l'époque, il y avait Internet qui démarrait. Donc, j'invite les auditeurs et qui pourront aussi être lecteurs s'ils ne sont pas déjà, d'aller voir sur le site. Et c'est un des premiers événements qu'on a couvert pratiquement en direct. Enfin, en direct, attention, hein. C'était écrit, on va dire, des écrits journaliers sur Internet. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de blog. En plus, c'est Guy Sauvage qui l'avait fait. C'était une de ses dernières contributions. Donc, les auditeurs, les lecteurs peuvent aller voir dans les archives, dossiers, il y a une partie dossier, et il y a Mondial 2003. Et là, il y a des trucs qui, je pense, feront rire, sourire, enfin, c'est intéressant. Et donc, ouais, il y a ce petit côté, on va dire, pour répondre à ta question, et pour faire un rapport avec Paramag. C'est vraiment difficile de choisir entre ça et Maubeuge en 2008, parce que Maubeuge, on en a parlé tout à l'heure, c'est là aussi le vol relatif, on a démarré, etc. C'est aussi chez moi. Le petit bémol de Maubeuge, bon, c'est que la météo, elle était quand même pas pareille.
J'en ai entendu parler.
Voilà. Mais c'était assez sympa parce que on dormait sur place, on avait un petit camping-car sur place. Et donc, quelque chose de nouveau par rapport à 2003, c'est que, pareil, Internet qui était arrivé. On avait développé donc la vente en ligne avec une boutique. Ça devenait nécessaire parce que c'est le moment où, en fait, on a développé une autre branche en plus du magazine. Et là, donc, c'est un coup de chapeau et un merci. Alors, j'ai cité donc Guimard Guillaume, Patrick Guy Sauvage par rapport au magazine Paramag. Et donc là, Michel, donc, qui est mon épouse, qui m'avait rejoint professionnellement, c'est-à-dire que c'est une aventure qu'on a partagée en famille avec elle. Et donc, Michel avait développé donc la boutique, la vente en ligne. Ça, c'était vraiment sa partie à elle. Et donc là, on était ensemble, elle avait sa boutique en ligne sur le mondial. Donc voilà, c'était aussi un petit coup de chapeau pour Michel qui a développé ça. Les lecteurs et les clients de l'époque ont connu ça. Après, on l'a fait aussi au championnat de France, à Vichy, etc. Donc voilà, désolé, j'ai pas pu choisir entre les championnats du monde 2003 et 2008, mais c'était deux championnats du monde vraiment différents.
Je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas, pas de problème, Bruno, par rapport à ça. Je m'attendais un peu à cette réponse. Comme tu dis, Paramag aujourd'hui couvre souvent plein de championnats du monde, tu as couvert plein d'événements, mais tu couvres aussi, par exemple, tout ce qui va être des records du monde, dans le monde du parachutisme. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier d'un événement ou d'un saut que Paramag a couvert qui t'a peut-être impressionné ou ému?
Alors, pareil, hein, hashtag torture. non, mais je vais choisir le Event Sent, donc c'est le saut sans parachute, que évidemment, j'allais dire, et malheureusement, j'ai pas pu suivre sur place, hein, c'était de l'autre côté de la planète, aux États-Unis. J'ai suivi ça derrière tout le monde, comme tout le monde derrière mon écran. La chance que j'ai eue, le petit avantage, c'est que j'avais un contact, un Français qui était sur place, qui était là-bas et qui donc me donner des infos. C'est Benjamin Ford. J'ai pu vivre ça un petit peu de l'intérieur. Donc, c'était un petit peu... voilà, d'un côté, je regardais ça derrière mon écran, je le vivais un petit peu de l'intérieur. Donc, il y avait ce côté un petit peu particulier. Là, on est maintenant en 2016, hein, on est donc complètement dans l'Internet, etc. C'est plus l'époque du magazine papier, les fax, machin, etc. On est, on va dire, dans la modernité. Donc, pour moi... voilà, c'était une autre époque, une autre façon de travailler. Mais ça m'a, moi, surtout impressionné par rapport à la technique, c'est-à-dire qu'on a parlé des records, on a parlé un petit peu de la compétition. Donc, c'est toujours les records, la compétition, le parachutisme, de toute façon, même pour un saut tout simple. Une personne qui va faire, je ne sais pas, qui va passer son brevet D, j'en sais rien, on va toujours donner le meilleur de soi-même et on ne veut pas se tromper. Sauf que, pour moi, ce saut, voilà, il m'a impressionné parce que... bah, si tu te trompes, t'es mort, quoi. Et voilà. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions, de dire, mais c'est débile, c'est la roulette russe. Mais non, moi, j'ai vraiment travaillé ce sujet-là, vraiment beaucoup, beaucoup. Et de toute façon, c'était très documenté, donc ceux qui se sont intéressés le savent. Non, c'était pas du tout débile. C'était calculé. Et voilà, pour moi, c'était vraiment le saut parfait.
Je comprends. Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion également de voir les images. C'est très impressionnant quand même, c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, comme on peut l'entendre, tu es dans le parachutisme depuis très longtemps. Tu as vécu, je vais dire, l'avant, l'envers du décor. Est-ce que aujourd'hui tu as été témoin d'un changement majeur dans le monde du parachutisme? Est-ce qu'il y a un changement, une évolution que tu trouves importante pour toi dans le monde du parachutisme?
Alors, des évolutions sur 30 ans, il y en a eu tellement, donc je ne vais pas répéter hashtag torture, ça va devenir lourd, mais il faut imaginer, donc on pourrait parler du tandem, on pourrait parler des avions, mais je pense que, enfin voilà, ce qui est évident, c'est la vidéo. L'apparition de la vidéo... C'est, pour moi, c'est ce qui a changé, mais pas que le parachutisme, hein, enfin, je veux dire nos vies. Hein, on le voit maintenant, enfin, voilà, avec les smartphones, etc. Mais comment expliquer, il faut revenir beaucoup plus en arrière pour pouvoir comprendre, enfin, en tout cas, moi, que j'essaye d'expliquer ce que la vidéo a apporté. C'est-à-dire qu'on faisait des sauts, moi, quand j'ai commencé en 79, dans les années 80, on n'avait pas d'image. C'est-à-dire qu'on allait on sautait, puis après, ben, on se parlait. Alors, évidemment, c'était l'époque des beaux parleurs. Hein. Ceux qui avaient une grande gueule, c'était les meilleurs. Hein. Parce que, ben voilà, t'imagines bien. En plus, alors, il y avait quand même, c'était filmé. ils nous regardaient avec des binoculaires ou avec des vidéos, mais on ne voyait pas toujours très bien. Donc ça, ça durait quand même pendant une dizaine d'années. Et puis après, la vidéo est arrivée. Donc c'était des grosses vidéos, hein, ils sautaient avec des trucs énormes sur le casque, plus sur le ventre. Hein, ils avaient un boîtier ventral. Encore une fois, ceux que ça intéresse, en tout cas, j'engage les auditeurs à aller voir tout ça. Donc c'était ça la vidéo. C'était en noir et blanc au début. C'était du VHS. Enfin, je vais pas refaire toute l'évolution de la vidéo, mais voilà, il y a eu toute cette évolution et maintenant on en arrive à ces qualités et d'images qui sont partout, la 360, et je dirais presque, alors je vais peut-être passer pour un vieux con, mais des fois c'est un peu chiant, quoi, parce que tu peux rien faire, quoi, t'es tout de suite filmé. Et donc oui, c'est vrai que ça a été évidemment une évolution énorme, hein, on va quand même pas dire n'importe quoi, mais c'était aussi sympa à cette époque où tu sautais, puis c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui se passe au-dessus des nuages reste au-dessus des nuages. Et on s'est bien marré quand même.
C'est vrai qu'on en voit souvent maintenant des images qui sont magnifiques. Ça peut être même de wingsuit ou de free fly, avec des superbes images. Je trouve ça personnellement hyper impressionnant. On va continuer dans ce côté torture où aujourd'hui il faudra choisir un peu tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter l'un des plus grands défis qu'aujourd'hui le Paramag a dû surmonter?
Alors, défi surmonté. Donc là, tu m'amènes une notion de difficulté. Ça me fait penser immédiatement à la période Covid, hein, parce que bon, voilà, Covid, plus de parachutisme. Enfin, on va pas trop se faire du mal en repensant à tout ça, mais ouais, ça a été un vrai défi parce que il y avait aussi le côté économique. Et puis c'est arrivé à un moment où voilà, on va pas se cacher, comme pour tous les magazines, ça devenait compliqué sur le plan économique pour Paramag. Hein, voilà, c'est commun à tous les magazines à cette époque. Et donc, ouais, arrive le Covid, où là, on se dit, on voit le parachutisme qui s'arrête, quoi, progressivement. On se dit, mais comment on va faire? Parce qu'un mensuel, c'est une machine, quoi. C'est un train qui est en marche, et tu ne peux pas l'arrêter, en fait. Enfin, tu t'arrêtes un peu à la gare, mais ça, toi, tu ne peux pas. Et tu as tout l'aspect économique derrière, avec voilà, l'imprimerie, les rendez-vous. Et là, arrive ça. Donc, ouais, ça a vraiment été un défi. C'est la première fois où je me suis quand même posé des grosses questions parce que, en fait, tu n'as pas le contrôle, tu ne sais pas ce qui va se passer. Finalement, bah oui, ce défi, il a amené, je pense qu'il nous a permis de bien arrêter le Paramag. Je parle du magazine, du mensuel, puisqu'on est parti sur un numéro tous les deux mois. Ça nous a permis un petit peu d'avoir plus le temps de réfléchir, parce que bah, quand tu es dans le mensuel, bah, il faut tout le temps. Donc, c'est un petit peu la course un petit peu tout le temps en avant. Donc, ouais, pour moi, c'était un défi par rapport à tout ça. Et puis, de dire, bon, bah, voilà, de toute façon, il y a un moment où ça va s'arrêter. Malheureusement, le magazine, on va devoir l'arrêter. Et ça m'a permis de l'arrêter progressivement, de passer le numéro 400 qui est là sur le bureau, ce qui n'était pas... J'étais pas certain d'y arriver. À un moment, je me suis dit, ça serait con d'arrêter au 397.
Tu voulais faire un petit clin d'œil au record du monde que tu as fait, c'est ça?
Ouais, non, mais non, pas du tout, parce que ça, c'était un petit peu dans les contenus. Non, c'était, on était quand même attaché à ça. Et ça nous a donné, je vais pas dire un objectif, mais une motivation supplémentaire, on va dire.
Je comprends. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelques magazines Paramag devant nos yeux, avec l'édition finale, avec la superbe photo d'un parachutiste, avec le Mont Saint-Michel au fond, c'est très très joli. Pour revenir un peu sur le Paramag, est-ce que toi, tu as déjà reçu une proposition ou une contribution pour Paramag qui t'a un peu surpris?
Un jour, j'ai été contacté par Yves Rossi, Jetman, hein, donc... L'aile volante. Alors Yves Rossi, je l'ai suivi dès ses débuts. Il a commencé à faire du skysurf, encore une fois, Google Yves Rossi, hein, voilà, ou Paramag l'intégrale Yves Rossi. Hein. Je ne peux pas tout raconter là, hein. Tout est maintenant sur Internet avec l'intégrale et toute la collection en ligne.
On laisse les auditeurs Paramag.
Voilà, donc tout est là, donc autant que ce soit lu et utilisé. Et puis le Jetman, hein, donc on a suivi dès le départ. Alors, c'est vrai que c'est pas vraiment du parachutisme quand même, hein, on peut dire. Mais moi, je me suis toujours dit, et je l'avais écrit d'ailleurs à l'époque, tant que ça se finit sous un parachute, c'est du parachutisme. Et puis, bon, finalement, j'ai pas regretté, parce que quand on voit que derrière, il y a eu la continuité, hein, on en parlait tout à l'heure avec les Soul Flyers, enfin, avec Fred et Vince. Voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, je me dis, ah, qu'est-ce que je fais? J'en parle pas, etc.
Je comprends.
Et puis un jour, Yves m'appelle et c'est la traversée de la Manche. Donc la traversée de la Manche, c'est une heure de bagnole de chez moi. Et il m'appelle, écoute, Bruno, viens. Donc là, on n'est pas dans une contribution, c'est vraiment un sujet d'article.
Exactement.
Et là, lui, il avait un bon sponsor à l'époque. Et je me suis retrouvé plongé. Ça m'est pas tout le temps arrivé parce que le parachutisme, il n'y a pas forcément des gros moyens. Tu vois, les championnats du monde, les trucs, hein, bon, voilà. On n'est pas dans la course automobile ou machin. Et là, il y avait quand même du moyen parce que à l'époque, je sais plus, il y avait Disney Channel, enfin bon. Et Yves, c'était sympa, il m'avait invité là-dedans et là, voilà, tu avais les tentes avec les buffets, les trucs Disney Channel, les cars, les trucs. Je me suis retrouvé plongé là-dedans, donc bah, merci Yves. Donc ça, c'était voilà le côté surprenant de me retrouver là-dedans. Moi, j'avais jamais vécu ce genre de reportage. Et puis surtout, la traversée de la Manche, c'est-à-dire, bon, là, faut savoir que c'est chez moi quand même. Moi, mes premières baignades, je les ai faites dans la Manche. Ça fait rire, hein, parce que les
tiennes aussi, je suis pareil, ouais, hein, voilà. Je vais également du Nord, ouais.
Donc, bah, voilà, il y a ce côté-là, et d'être là, le voir embarquer, alors que moi, je l'avais suivi dès le départ, le côté suisse un peu, et puis bon, bah, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, Yves. Et, bah, voilà, de pouvoir finalement assister, le voir monter dans l'avion avec son aile, tout son bazar, dans le Pilatus, et puis dire, bah voilà, il va traverser la Manche. Ouais, ça, c'était, je m'y attendais pas, et c'était sympa.
Super anecdote, vraiment, merci beaucoup, Bruno, pour ça. Tu as beaucoup baigné dans le parachutisme, un peu toute ta vie. En quoi, aujourd'hui, Paramag, il a pu influencer ton approche du parachutisme, ou même changer ta vie, d'une certaine manière?
Oui, ça a influencé mon approche du parachutisme. Alors, il y a une phrase quand j'ai repris le paramag, donc j'étais voilà 92, j'avais déjà fait une partie carrière compétition. Ensuite, j'avais fait d'autres boulots dans le parachutisme, hein, puisqu'il y avait la partie parachute de France qui était quand même pendant une dizaine d'années. À une époque où le matériel évoluait, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, on avait parti des gros parachutes avec les ventrous, etc., les parachutes hémisphériques, les ailes. Donc ça, c'était un petit peu tout le côté évolution et parachuterie. Et là, j'arrive dans le magazine. Je ne connaissais pas finalement. Hein. Moi, j'étais un peu formé par DJ Klein qui m'avait fait une petite formation quand on a repris le Paramag. C'était une bonne idée d'ailleurs de ne pas créer un magazine concurrent, mais de le faire avec lui, parce que ça aurait été peut-être plus douloureux. Et dans l'édito, enfin le dernier édito que lui a écrit, et moi, c'était mon premier édito en tant que rédacteur en chef, dans son édito, il avait écrit une phrase qui m'a interpellé, voire même inquiété. Comme quoi, il disait qu'il était aussi fier, je suis aussi fier de mes amis que de mes ennemis. Donc, c'est DJ Klein qui avait écrit ça. Je me suis dit, putain, c'est la guerre, en fait, ce truc-là. Et, bon, ben voilà, forcément, on se fait des ennemis dans la vie, mais je me suis dit, je vais essayer de pas trop m'en faire, finalement, parce que je suis là aussi pour travailler dans ma passion. Voilà, j'étais pas trop dans ce côté dans le conflit. Bon, il se trouve qu'il y en a toujours des conflits dans le parachutisme, que ce soit dans la vie associative, enfin dans n'importe quoi, il y a toujours des conflits. Et ouais, ça m'a influencé par rapport à ça, où je me suis dit, bon, attention, ça m'a un petit peu servi de leçon. Donc ça a été la première influence, de dire, bon, ok, il faut essayer de garder un petit peu un équilibre, et puis de pouvoir toujours voilà, être dans l'objectivité, et de pouvoir toujours... que ça reste une passion, en fait. À partir du moment où tu perds ce côté passion, je pense que ça peut plus fonctionner dans des métiers comme ça, ou quand tu travailles dans le parachutisme. C'est vrai pour moi, mais je pense que c'est vrai pour tous ceux qui travaillent dans le parachutisme. Donc ouais, forcément, ça a influencé par rapport à ça. Si tu perds la foi, bah tu fais autre chose, t'arrêtes et tu fais autre chose. Donc voilà, donc de trouver cet équilibre, en fait, entre le côté la passion, le loisir, le sport, parce que j'ai quand même réussi à faire de la compétition pendant longtemps. Tout en faisant paramag, j'ai pas arrêté, en fait, tout à l'heure on parlait de l'arrêt de la compétition, mais j'ai eu cette chance de pouvoir continuer à faire du 8, du vert 16, ça n'existe plus maintenant la compétition à 16, pendant une quinzaine d'années, jusque dans les années 2000. Donc c'était assez sympa, t'as pas beaucoup de métiers finalement où tu peux à la fois être acteur et, enfin on va dire observateur, quand tu fais du race, t'observes. Donc voilà, c'est comme ça que ça a un peu, enfin, beaucoup influencé ma vie, c'est de pouvoir être un peu des deux côtés.
Aujourd'hui, en parlant de tout ton, peut-être ton passé, peut-être aller sur le côté futur, quand tu penses à l'avenir, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aimerais voir Paramag couvrir ou entreprendre, une vision ou un projet, un article qui tient à cœur? Une question un peu plus, je vais dire, un peu plus large. Comment tu vois le futur de Paramag, toi?
Alors, bon, le futur de Paramag, ben, on va parler tout de suite Internet. Hein, voilà, l'arrêt du magazine papier, ça a été quelque chose de très important. Hein. Moi, j'ai vécu pendant, je crois que c'est 28 ans, j'ai pas fait le calcul, hein, 92, enfin voilà, on va dire une petite trentaine d'années, à tous les mois sortir un magazine en papier, enfin... Je vais pas, voilà, on imagine un petit peu ce que ça représente. Quand le magazine s'est arrêté, ma vie a changé. J'avais aucune idée de ce que ça allait donner. C'est-à-dire que pour moi à l'époque, enfin pour Paramag, Internet, c'était il y avait évidemment la version numérique, etc. Mais on était toujours dans le format magazine, c'est-à-dire 60 pages ou 68 pages à maqueter, à remplir avec des délais, etc. Quand ça s'est arrêté, moi je savais pas ce qui allait se passer. Potentiellement, tout allait s'arrêter. Bon, il se trouve qu'on a fait l'intégrale, on a tout mis en ligne, on a pu tout numériser. Je remercie encore tous ceux qui ont pu participer à ça, que ce soit sur un plan financier ou même, comment dire, avec des contenus, des contributions, etc. Et je me suis dit, bon, okay, on va mettre tout ça en ligne, puis on va bien voir. Et puis ça continue. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose. Que ce soit sur les contenus, c'est quand même plus light. Hein. Moi, je ne suis plus du tout dans la même démarche. Hein. J'ai quand même pris un petit peu de recul, j'ai levé le pied. Maintenant, ouais, moi, mon rêve, ça serait de dire, bah voilà, il y a quelqu'un de plus jeune qui le reprendrait et qui irait explorer ce qu'il y a moyen de faire maintenant avec cette dimension-là, ce média. Et peut-être que ça pourrait, j'allais dire, redécoller parce que, bon, voilà, même si on continue, on n'est plus. On n'a pas un faisceau aussi large que ce qu'on faisait avec le magazine. Hein. Quand il y avait le magazine, voilà, c'était. Moi, je mangeais Paramag, je dormais Paramag, enfin voilà, tout était Paramag. Bon là maintenant, comme j'ai dit, il y a quand même moins de contenu, mais voilà, ça serait une aventure. Moi, je vais pas la tenter parce que ça va, j'ai donné. Maintenant, j'arrive à une période de ma vie où j'ai pris un petit peu de recul de tout ça, mais ouais, ça serait de dire, bah, est-ce que Paramag finalement pourrait continuer sur ce format numérique, les réseaux sociaux, Internet, voilà. C'est comme ça que je réponds à ta question.
Ok. Merci pour toutes ces réponses. Je pense qu'on va fermer la grande parenthèse Paramag, qui a été super intéressante, super.
Eh ben merci.
non, des anecdotes vraiment incroyables. De toute façon, je me doutais que tu en avais. On va revenir sur des anecdotes plus à toi, par rapport au parachutisme. Ce que je te propose, c'est que je vais te poser une question. Tu as le droit à une seule réponse et m'expliquer pourquoi. Alors, ça reste ce côté un peu torture que tu vas encore avoir. Néanmoins, je te propose de faire ça. Ton plus beau saut.
Alors, mon plus beau saut, je vais un peu tricher. Hein. Mon plus beau saut, c'est une grande formation. Maintenant, laquelle? Parce que, bon, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu sur le Mont-Saint-Michel. Il y en a eu à Nice, où on avait fait un 150. On s'était posé sur la plage, les salons du Bourget. Donc, voilà. Donc, c'est forcément une grande formation. C'est le record. On est toujours sur les records, donc le record à 357, donc c'était avant 400, c'était le 6 février 2004. Et même si c'était une formation plus petite, c'était quand même grand, hein, 357, mais ça reste le meilleur souvenir et pour moi le plus beau saut. Alors pourquoi? Parce qu'on revient dans ce contexte un peu, la Thaïlande, les grandes formations, la World Team, BG Worlds américain qui organisait tout ça, les Hercules, les copains, voilà, tous les pays qui étaient là, tout ce côté international que j'invite encore, hein, c'est pas de la pub, parce que de toute façon, maintenant, c'est gratuit, à aller lire sur Internet, parce que, non, mais c'est vraiment des belles aventures.
Je suis d'accord.
C'est des aventures qu'on écrivait, alors, moi, Patrick, d'autres, hein, y a eu plein de contributeurs, hein, quand je parle de Paramag, c'est tous les contributeurs, tous les photographes, hein, voilà, c'est vraiment pas que moi, hein, moi, j'étais, on va dire, je suis le chef d'orchestre, voilà, à l'époque. Mais franchement, c'est, voilà, raconter, répondre à tes questions, comme ça, en quelques minutes, c'est super sympa et je te remercie d'ailleurs. Voilà, tu vois, ma réponse, elle va être un peu longue, mais de même mettre un petit peu sur ce côté derrière le micro, hein, de changer la position, c'est assez sympa. Mais donc voilà, c'est ce saut à 357. Donc on est en Thaïlande. toujours pareil, hein, voilà, on est là depuis plusieurs jours, et puis ça marche pas, et puis il y a toujours un maillon faible, il y a un truc, un machin, puis on arrive le dernier jour, le dernier du dernier, et on sait que le lendemain, on va partir, on va faire nos valises, on va reprendre les avions de ligne, et c'est fini, et on arrive sur la drop zone, et manque de bol, en Thaïlande, il fait pas beau jour, il y a une couche plombée, et là, on attend, et on va dire, mais non, mais ça va pas se terminer comme ça, l'aventure, on va pas juste attendre toute la journée, qu'il y a un trou, enfin voilà, que ça se dégage. Et puis là, les organisateurs nous disent, ben voilà, il y a une autre base aérienne. Ça se passait sur des bases aériennes thaïlandaises, ces records-là. Il y a une autre base aérienne qui a, on ne savait même pas, 150 km, on ne sait pas où. Ça s'équipe, on va monter dans les Hercules. On va aller sur cette base, on va se poser. Donc quand je dis on, c'est 357 plus toute l'équipe, c'est-à-dire on va dire 400 personnes. Ils vont y aller avec des avions, pas que les Hercules, enfin, ils avaient les Dakota, enfin, une machinerie indescriptible, comme ça en quelques mots. On va se poser sur cette base, on va regarder. Sur la base, à cet endroit-là, il fait beau, il y a du ciel bleu, et on va aller faire le record là-bas. Alors là, quand ils nous sortent ça, on dit, bon, bah ok, hein. Mais c'est juste inimaginable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a pris les avions, on est allé là-bas, on s'est posé, on a regardé la zone, bon, bah ça va, c'est une base aérienne, c'était assez grand. Et puis on est monté, donc pareil, hein, 7000 mètres, l'oxygène, ça dure une heure, enfin toujours le même truc. Et puis là, t'es dans un autre monde, quoi. Tu sais même pas où tu vas sauter. C'est-à-dire la zone, tu l'as vue, t'imagines, quoi. T'arrives, t'es pratiquement sur une autre planète. Là, au moment où on part, bon bah ces sauts-là, quand c'est un petit peu toujours pareil, hein, tu pars, c'est le grand bleu, hein, c'est une grande formation, donc c'est la base, tu la vois pas tout de suite, c'est le grand bleu. Au moment où on sort, je vois quelqu'un de 9-7 heures qui est percuté. Donc, en sortie, enfin, il est bousculé, on va dire pas percuté, il est bousculé. Donc, wow, ça part pas très bien. On part, on fait le trafic, ça rentre, etc. Je vois cette personne qui s'appelle Gérard Félin, en hommage, qui arrive à remonter. Donc, c'était Gérard Félin, c'est une personne qui était au remonte à l'époque du travail relatif. C'était quelqu'un qui, à l'époque, était en équipe de France, qui s'appelait les Icarus, donc moi j'avais connu un petit peu à cette époque, qui avait fait un gros break dans le parachutisme et qui était revenu sauter avec nous. Donc il y avait une différence d'âge. À l'époque, on va dire il avait plus de 60 ans. Et voilà, un très bon parachutiste, mais qui avait l'habitude, il avait connu ses bousculades, ses déventements de l'époque, ces trucs qui s'effondraient. Paf, et il est revenu, il est remonté. On a fait notre Windbreaker, enfin, notre formation. Et ça, c'était vraiment tout 357, qui était super beau, super plat. Là, vraiment, on avait pratiquement la certitude que c'était fait. On s'est séparés, on était en dérive, on ne savait même pas où on était.
J'imagine.
On dérivait, la zone, on ne l'avait jamais vue. On a fait notre dérive, on était sous voile, on était, allez, on va dire 357 plus les vidéos, on était 370 sous voile. On n'avait jamais sauté là.
On n'avait jamais sauté là.
Et ça, ouais, je pense que, allez, on va dire que c'était mon meilleur saut.
Ok. Merci pour ce retour. On va partir sur notre sujet. On reste sur les sauts. Maintenant, ton pire saut, si t'en as un.
Alors, mon pire saut, bah ouais, encore là, hashtag pire saut, voilà. Voilà, celui qui me vient à l'esprit, c'est un saut. Donc, on revient à l'époque où je travaillais pour Parachute de France. Donc, il y avait la partie commerciale. Comme je te disais, voilà, on avait plusieurs casquettes à l'époque. Le matériel évoluait beaucoup, hein, encore, voilà, c'était le début des ailes, etc., etc. C'était le début du tandem. Donc, j'ai eu la chance avec donc Parachute de France et notamment Michel Auvray à l'époque de travailler sur le premier parachute tandem français qui s'appelait le Galaxy à l'époque. Donc, voilà, ça, c'était assez sympa de travailler avec Michel là-dessus. Et après, il a fallu former les premiers. Alors, c'était pas des moniteurs, hein, c'était des pilotes. Après, on a appelé ça les moniteurs. Enfin, c'est vraiment le début, hein, du tandem. D'accord. Et sur ces personnes, il y en avait une qui n'était pas très bonne. Donc, déjà à cette époque, eh ben, on faisait les sauts en ce qu'on appelait en lisse. Hein, donc, c'était à la fin de la formation. Je faisais quand même un saut qui était un petit peu chaud. Ça se fait toujours maintenant. Où tu pars sans sortir le RSE, et puis là, tu fais un petit peu des manœuvres, des loops, des tonneaux, pour voir un petit peu comment la personne a réagi. Et puis là, bah, la personne, ça n'allait pas très bien, et on s'est retrouvé en vrille de quoi j'étais devant, et puis ça part pas très bien, il fait les figures, ça part pas bien du tout. Et là, ça se passait à Lens, c'est un centre qui est fermé maintenant, Et je me souviens, donc j'ai cette sensation d'être sur le dos et ça commence à tourner. Et là, je voyais la base aérienne, mais je la voyais revenir comme ça de plus en plus vite. Et là, ouais, j'ai eu très peur. Donc, on n'avait pas vraiment de procédure, mais on avait quand même discuté de certaines choses. Évidemment, bah, la seule chose à faire, enfin, la première chose à faire, c'était donc RSE, ralentisseur, stabilisateur, extracteur. Donc, ralentisseur, stabilisateur, bah, c'était d'essayer de le balancer pour arrêter ça. Heureusement, j'ai réussi à donc, en étant devant, quand même, à lui attraper le RSE, à le sortir. Et ça nous a sorti de la galère. Voilà, ça, c'est le plus mauvais saut. Après, j'ai arrêté. Je me suis concentré sur la partie commerciale.
Ok, je comprends. Okay. Comme tu nous le disais, pour passer à la prochaine question, le parachutisme avant, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, je sais pas, je te pose cette question. Est-ce que tu te rappelles de ta première libération ?
Pour être vraiment, c'est sincère, hein, en fait, je m'en souviens pas de ma première libération. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand j'ai commencé le parachutisme, on ne libérait pas, il n'y avait pratiquement pas de libérateur. Donc, je me souviens parfaitement de mon premier secours, qui était un ventral. Ça, je m'en souviens pratiquement comme de mon premier saut. Pour parler de la libération, ce que je me souviens le plus, c'est quand les premiers libérateurs sont arrivés sur les parachutes. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'était des parachutes américains à l'époque, donc c'était les trois anneaux pour nous. C'était un petit peu comme les lacets de nos godasses, quoi. Tu vois, c'était, regardez ces trucs qui étaient tout petits, alors que les premiers libérateurs étaient gros, etc. Nous, ce qu'on attendait, c'était avec les potes, hein, tu vois, c'était l'époque des copains. C'était le premier mec qui allait libérer, en fait. C'était ça, c'était le truc. Et un jour, donc, c'est un parachutiste qui s'appelle Danny Hooper. C'était un parachutiste de Maubeuge, qui est un Belge. Et on l'avait retrouvé à Royan, c'était pendant les vacances. Et là, pouf, ça tombe sur lui. Lui, il avait mini-foil à l'époque, cette voile. Et là, Danny, on le voit, et là, bah, il libère. Et je me souviens de la première libération, en fait, que j'ai vue, c'est ça qui m'a marqué le plus. Où tu vois la libé, bon, les auditeurs qui ont vu des libés, ben voilà, c'est maintenant ça paraît anodin, mais c'était la première fois qu'on voyait une libération, c'était pour nous un événement. On est allé voir, alors qu'est-ce que ça fait, machin, etc. Et franchement, après, j'en ai fait pas mal des libérations parce que, comme je te disais tout à l'heure, le parachute n'était pas aussi au point que maintenant, mais franchement, je m'en souviens plus.
Ok, je peux comprendre. aujourd'hui, si tu devais retenir qu'un seul moment, alors, si tu vas encore me dire torture, je le comprends. Si tu devais retenir qu'un seul moment de toutes ces années de parachutisme, ça serait quoi ?
Encore une question qui torture le cerveau.
Je m'en doutais que tu allais dire ça.
Ouais, on va jouer le jeu, non, mais d'autant que c'est vraiment sympa. Bah, voilà, on dit souvent le parachutisme, c'est une grande famille. Moi, j'ai eu la chance de faire du parachutisme. Alors, voilà, on a beaucoup parlé, mais de faire du parachutisme aussi avec ma famille. Et donc, ouais, ça, c'est quand même des moments super, enfin, c'est plus que sympa, enfin, c'est des moments très, très forts. J'ai trois garçons, Mathieu, Victor et Oscar. J'ai eu la chance de pouvoir sauter avec eux. Alors, ils n'ont pas le même âge, hein, c'est sur des générations différentes, surtout Mathieu, qui est l'aîné. Voilà, Mathieu, donc mon premier fils, j'ai eu la chance de faire un championnat de France avec lui à Gap. En 2001. En plus, c'était pas prévu parce que j'étais dans une équipe à 8. C'était à l'époque où je faisais encore paramag et de la compétition. Donc, j'étais dans une équipe à 8. On a terminé sur le podium à 8. Et j'étais remplaçant dans son équipe à 4. Lui, il avait une équipe. Et voilà, j'ai dû faire remplaçant. Dommage pour la personne que j'ai remplacée. Et ça, c'était vraiment sympa. Faire un championnat de France avec son fils. Et puis après, bah, Victor et Oscar qui sont arrivés, qui se sont mis aussi à sauter. Eux sont plus jeunes, c'est plus récent, on est dans le présent. Et donc voilà, je peux sauter avec eux deux. Et bon, ça, c'est vraiment, vraiment très fort. Bon, en plus, là, il y a une différence d'âge plus importante, hein, forcément. On n'est plus sur la même période. Hein. On parlait du championnat de France en 2001. Là, on est actuel. Eux, ils ont fait leur pack. Pour Victor, c'était il y a quelques années. Oscar, c'est plus jeune. Ça, c'est vraiment très, très fort. Je triche encore un peu, hein. La réponse elle sera un peu multiple. Et puis aussi avec la maman, et même les mamans, on va dire, mais en tout cas, la maman avec Michel. Voilà, on a pu faire des sauts de formation avec Michel au Mont-Saint-Michel. Bon, voilà, c'est sauter avec sa famille. Voilà, le parachutisme, c'est une passion. Enfin, voilà, les auditeurs qui écoutent, qui sont parachutistes, forcément savent ce que c'est. Et pouvoir le partager comme ça avec sa famille, c'est décuplé.
Pour en venir sur notre question, alors celle-là, tu vas encore me dire que c'est de la torture ou une autre. Je la pose quand même. Aujourd'hui, est-ce que tu préférais arrêter Paramag ou arrêter le parachutisme?
Alors là, il va y avoir un petit blanc. Je préférerais rien arrêter du tout, en fait. Mais bon, allez, je vais quand même jouer le jeu et je vais quand même te répondre. J'espère que ça ne décevra pas trop de monde. Pour moi, le Paramag, c'était quand même le magazine. C'était le papier, le mensuel. Alors évidemment, on continue tout ça. Mais ça continue d'ailleurs sur Internet. Et je reviens un petit peu en arrière. Voilà, le fait d'avoir pu mettre tout ça en ligne, ben j'espère que ça permettra aux générations futures de voir ce que c'était. Mais enfin voilà, le Paramag, je l'ai dans la peau, quoi, tu vois, mais en version magazine papier. Ça a été 30 ans de ma vie. Donc pour moi, ça s'est arrêté. Bah, du coup, j'ai pas envie d'arrêter le parachutisme.
Je comprends. Allez, je m'attendais pas à une réponse pour être très franc quand je te l'ai posée. Le saut que tu rêverais de faire, s'il en reste un.
Alors là, tu vas être content, Quentin. Je vais te faire une réponse super courte. Le prochain saut.
Je la
Voilà. Le
comprends.
meilleur saut, c'est toujours le prochain saut.
Je
Mais
le
non, mais
comprends.
le passé, c'est le passé. Je veux dire, là, on a parlé forcément beaucoup du passé, mais et ça a été un petit peu nous, ce qui nous pousse en avant dans le magazine, enfin dans tout ce qui est médias, etc. C'est ce qui va se passer demain. Donc pour moi, voilà, c'est le prochain. Qu'est-ce que ça va être? Peut-être ce sera un saut. J'espère demain. Bon là. On est au mois d'avril, on n'a toujours pas sauté, hein. Enfin, nous, dans le nord de la France, hein. Donc, petite parenthèse, voilà.
Exactement.
Donc, ce sera peut-être un petit saut tout simple, voilà. Il y aura une lumière, un nuage, un sourire, voilà. Ce sera pas forcément hardcore, ce sera pas un truc, mais non, voilà, faut regarder devant. Le meilleur saut, c'est le prochain. Enfin, en tout cas, on espère que ce sera un bon saut.
Je suis d'accord. Pour finir, j'ai une petite dernière question pour cette partie anecdote.
Je me méfie de tes petites questions quand même, hein. Elles sont toujours petites, mais
C'est des petites questions un peu biscornues, je dirais. Non, celle-là, je pense qu'elle sera assez simple pour toi. Est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais remercier, mettre en avant aujourd'hui dans cet épisode? Voilà, un peu, je te laisse la main sur ça.
Alors, il y a une personne forcément qui m'a suivi, accompagné ou que j'ai suivi tout au long de ma vie de parachutisme et de paramag. Bon, c'est Patrick, mon frère, mon frangin, on en a déjà parlé. Mais il y a surtout une personne qui partage ma vie et qui m'a rejoint dans paramag. Donc, c'est Michel, mon épouse, Michel Passe, qui, évidemment, je l'embrasse, quoi, forcément. En plus de la remercier profondément d'avoir partagé. Non, mais c'est parce qu'elle a... Il faut quand même le dire. Hein. Là, on est un petit peu dans le positif, etc., etc. Bah, voilà, la vie, elle n'est pas facile tous les jours. Et quand tu es ensemble tous les jours et quand tu travailles, tu partages aussi des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'elle mérite quand même, enfin, ça mérite un gros, gros merci parce que bah, voilà, quand ça va pas, bah, voilà, il y a une épaule sur qui tu peux te reposer.
Exactement.
Et c'est la sienne.
Je comprends. Pour en finir un peu avec toute cette interview, ça sera ma dernière question.
J'ai du mal à te croire là quand même.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner, par exemple, toi, à des sautants moins expérimentés que toi, vraiment un conseil que tu peux nous donner?
Alors, il y a beaucoup de conseils à donner à des sautants bon, moins expérimentés ou peu importe d'ailleurs. Moi, je vais essayer de donner un conseil qui peut être, enfin, qui est valable pour tout le monde, mais évidemment pour ceux qui sont peut-être moins expérimentés dans ce sport, dans cette pratique qui est quand même assez particulière, puisque voilà, on veut se faire plaisir, ou on veut faire de la performance, enfin, on veut faire plein de choses en l'air. Mais il y a quand même ce côté danger, hein. Faut pas se le raconter. Hein. Au début de l'interview, on parlait peur, appréhension, etc. Et ça, on sait que c'est pas facile à gérer. Donc ouais, moi, ce que je pourrais dire, c'est réussir, en tout cas, toujours essayer de trouver ce bon équilibre entre le plaisir, la peur ou l'appréhension. On peut l'appeler comme on veut, parce que voilà. Peur, appréhension, plaisir, ça on sait ce que c'est. La performance, bah, on ne l'a pas toujours, mais elle va arriver. Donc c'est voilà, c'est un petit peu une question d'équilibre un peu entre tout ça. Et surtout, c'est ne pas faire le saut de trop, mais bien faire le saut à pas rater. Point final.
Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Comme je ne t'ai pas menti, c'était ma dernière question.
Ça tombe bien parce que moi j'en ai une pour toi. Alors, bon, déjà je voulais te remercier parce que c'était vraiment sympa de pouvoir échanger avec toi et puis c'est une expérience que j'avais jamais pratiquée d'être derrière le micro, enfin en tout cas de ce côté-là du micro. Et puis bah, j'espère un jour qu'on pourra inverser et que je reprenne ma place et puis qu'on parle de ce parasquad à qui je souhaite longue vie.
Eh ben, merci beaucoup. Oui, j'espère que ce sera longue vie. J'ai plein de projets qui vont arriver. Merci, merci pour ce petit clin d'œil.
Merci à toi, Quentin.
Écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, du coup, comme je l'avais dit, sur le Paramag. C'est hyper intéressant. Il y a plein de documentation, plein de choses à voir sur le passé, sur plein de tous les événements qui ont pu marquer aujourd'hui le monde du parachutisme. Allez faire un petit tour. Et puis, du coup, je remercie encore Bruno qui a pris le temps de nous raconter son histoire qui était hyper passionnante, et je vous dis à un prochain numéro.